Québec a présenté son plan hier face à une deuxième vague potentielle de COVID et le ministre de la Santé et des Services sociaux est avec nous ce matin, Christian Dubé. Monsieur Dubé, bonjour.
Oui, bonjour, Monsieur Arcand.
Je regardais le plan sur papier. Ça semble que tout est là, que vous n'avez rien oublié, que tout est prévu. Je voudrais reprendre avec vous ce matin certains éléments qui soulèvent quand même des questions. Quand vous dites qu'il y aura un gestionnaire dans chacun des centres de soins de longue durée, est-ce que c'est une décision permanente ou strictement de façon temporaire pendant une crise?
C'est permanent. C'est permanent parce que effectivement, c'est encore plus important quand il y a une crise pour s'assurer, par exemple, que toutes les techniques de prévention des éclosions, tout ce qui se rapporte aux infections doit être surveillé de très proche. Donc, ça prend quelqu'un qui est responsable sur place. Mais quand on sera sorti de cette crise-là, il faut aussi penser à la qualité de service des soins qui est donnée aux gens. Donc, pour moi, d'avoir une personne qui est responsable sur place, c'est un must.
Et ces patrons-là vont venir d'où exactement?
Bien, écoutez, je vous dirais que de ce que j'ai compris là, avec les différentes discussions que j'ai eues jusqu'à maintenant, il y a dans plusieurs, peut-être la moitié des CHSLD, déjà une personne qui est sur place qui est responsable. Donc, on va juste confirmer ce rôle-là. Il y a d'autres endroits où il y a peut-être quelqu'un qui est capable de le faire, mais à qui on n'avait pas aligné ce poste-là. Et le troisième cas, c'est où il n'y en avait pas du tout, mais là, il faut aller chercher quelqu'un de l'extérieur.
Je vous dis ça parce que j'ai encore actuellement des courriels de gens qui sont dans le réseau, là, des préposés et des infirmières qui me disent que, ben, comme on le sait, là, il arrive des moments où il manque de personnel, qu'il y a encore des bénéficiaires qui se retrouvent avec... pas de soins pendant des heures qui sont négligées. Malheureusement, c'est encore le cas. Ça va être ça, une des responsabilités du gestionnaire de s'assurer que ça n'arrive plus, là?
Bien, c'est exactement pour ça que vous me demandez, c'est-tu juste en cas de crise? La réponse est non. Parce que il faut donner un service à la clientèle. Je ne veux pas jouer sur les mots, là, mais on a besoin de responsabiliser nos gestionnaires tout au long de l'échelle pour dire ces gens-là doivent être bien traités. Et sur place, il doit y avoir quelqu'un qui s'assure que c'est ça qui arrive. Alors, pour moi, ce n'est pas juste pour la gestion de crise, c'est pour les années à venir.
Qu'est-ce que le gestionnaire va faire, ou la gestionnaire, là, quand, mettons, qu'il y a une deuxième vague, que pour le quart de soir et de nuit, il y a 30 % du personnel qui ne se présente pas pour X raisons, comment on va faire pour s'assurer qu'il n'y aura pas du va-et-vient sur les étages, entre établissements, là, du côté des préposés ou bénéficiaires. J'ai plus de monde, là. Je peux pas les promener d'un étage à l'autre. Qu'est-ce que je fais?
Bon. C'est une question théorique, mais il y a une partie pratique à ce que vous dites. Je vais répondre à la partie théorique. Ça arrivait tellement souvent parce qu'on avait un manque de personnel. On peut bien avoir toute la théorie qu'on veut, mais vous me comprenez que c'est pas pour rien qu'on a engagé 10 000 préposés ou bénéficiaires. Il en manquait. Alors, du côté des préposés ou bénéficiaires, je vous donne une relativité, là. On en avait à peu près 23 000, puis on engage 10 000. Donc, c'est une augmentation qui est significative. Donc, du côté des préposés, si on fait bien les horaires, puis qu'on a un responsable local qui planifie ses horaires, on ne devrait pas manquer de personnel. Ça, pour moi, c'est majeur. Ce qui m'inquiète encore, c'est du côté des infirmières puis des auxiliaires. Parce qu'on n'a pas encore cette même disponibilité qu'on a réussi à avoir en engageant des nouveaux préposés. Donc là, c'est là qu'il va falloir avoir, et c'est pour ça que je me suis donné jusqu'à la fin septembre, pour être capable de discuter avec toute la gestion du réseau, qu'est-ce qu'ils vont faire. Moi, j'ai énormément apprécié la sortie de la FIC hier, qui a montré qu'il y avait une mobilisation dans le réseau pour travailler ensemble. Alors, je vous donne cet exemple-là parce qu'avec la FIC, il faut avoir cette discussion-là dans les prochaines semaines. Comment on peut pallier au manque de main-d'œuvre du côté des auxiliaires et des infirmières pour être capable d'avoir des horaires qui vont respecter, puis c'est bien ce que j'ai dit à tous les DG, c'est ce que Mme Savoie va discuter dans les prochaines semaines. Comment on va respecter toute la question de la prévention des éclosions?
OK, mais je reviens quand même à ma question, c'est-à-dire s'il y a, puis on l'a vu, là, puis je comprends qu'il manquait de personnel, que vous comblez des postes, il y a peut-être des gens qui vont, comme on dit, ne seront pas présents parce qu'ils sont malades ou pour X raisons. Le gestionnaire, là, puis vous les tenez responsables, puis vous tenez responsable le PDG du CIS également, là, le gestionnaire qui va dire, OK, là, je fais quoi, là, je néglige les patients ou je permets à quelqu'un de faire du va-et-vient? C'est quoi sa commande?
Mais ça commande, ça va être de trouver les personnes qui ont besoin. On ne peut pas accepter de prendre des risques comme il s'est pris peut-être dans le passé, d'envoyer des gens d'une zone chaude à une zone froide. On ne peut pas faire ça. On ne peut pas faire ça.
Maintenant, pour ce qui est des hôpitaux, vous avez dit, il n'est pas question là, de délester de façon massive les chirurgies comme on a vu dans la première vague. Comment ça va se passer? Là? Il y a quoi? Il y a des étages qui vont être dédiés aux chirurgies, aux examens, des hôpitaux. C'est quoi le plan?
Oui, on a beaucoup appris de la première vague. J'apprécie cette question-là. Je pense que, je vais vous donner un exemple. Quand on est arrivé au début de la vague, il y avait deux hôpitaux là, où ça a été concentré, c'est le Jewish puis Maisonneuve-Rosemont. Bon. Alors là, par contre, ce qu'on a appris de ça, c'est qu'il faut faire attention de la façon dont on fait le délestage. Puis, si on était dans une phase 1, là, une phase 1 mineure, est-ce qu'on pourrait délester, par exemple, au Jewish puis à Maisonneuve-Rosemont un petit peu moins et faire embarquer un troisième ou un quatrième hôpital rapidement pour qu'il y ait moins de délestage qui se fasse dans l'hôpital, par exemple, au Jewish ou à Maisonneuve-Rosemont? Parce qu'on doit garder localement la capacité de continuer à faire les opérations. Donc, il y a deux éléments qui sont différents. C'est de le faire par phase et de s'assurer que ça se fait avec plus d'établissements pour être certain que le délestage se fait de moins en moins dans chacun des hôpitaux. Mais ça se fait par région. Parce que, rappelez-vous, notre premier enjeu de la première vague, ça a été qu'on a délesté, on a fermé 6000 chambres, 6000 lits partout au Québec, alors qu'on n'en avait pas besoin partout au Québec. Alors, c'est le genre d'apprentissage qu'on a fait de la première vague pour être capable maintenant de faire du délestage, mais de le faire de façon beaucoup plus ciblée, si vous permettez.
Quand je regarde ça, M. Dubé, là, comme je disais au début, tous les angles semblent assez couverts. Ma crainte, à partir de l'expérience de la dernière fois, c'est quand ce que vous me dites, puis je mets pas votre parole en doute, là, mais comment la machine va gérer ça, comment ça va retomber au niveau du terrain, j'ai comme des doutes. Je me dis, l'intention est là. Je vous donne un exemple. Vous étiez au Conseil du Trésor, vous annoncez des primes, puis des emplois temps plein, puis pour justement recruter des préposés aux bénéficiaires. Ça descend dans la machine, puis là, ça remonte. Les gens nous disent, ouais, mais là, c'est plus clair, puis il y a une question syndicale. Puis ça va peut-être juste pour un an, puis le 26 piastres passera. Il y a une confusion lancée par l'appareil administratif, alors que votre message était clair. Comment vous allez éviter que votre discours là, passe dans le blender des fonctionnaires?
OK. Écoutez, ça fait 6 semaines que je suis là. Alors, si vous me demandez est-ce que j'ai dompté le mammouth, la réponse est non, pas encore. Mais je travaille fort. Je pense qu'il faut avoir une combinaison de faire les bonnes choses, de dire les bonnes choses, mais aussi d'être sur le terrain. Écoutez, là, moi, vendredi, là, je vais aller rencontrer deux hôpitaux problématiques qu'on a, Saint-Eustache et Saint-Jérôme. Je vais être sur le terrain, puis voir qu'est-ce qui se passe. Alors, quand vous me dites qu'il y a des directives qui ne passaient pas, c'est vrai qu'ils ne passaient pas. Et il faut aller voir les gestionnaires et leur demander, bon, maintenant que le plan est clair, puis je le répète, c'est pour ça qu'on s'est donné jusqu'au 30 septembre. Ce n'est pas parce qu'on n'a pas commencé à faire le travail. Le travail est commencé depuis longtemps, mais il faut s'assurer que le message est passé. On dise, maintenant, quand vous avez un problème, on veut le savoir. On ne veut pas le lire dans les journaux. On veut le savoir tout de suite. Alors, c'est ça. Puis ça se fait comme dans toute bonne gestion, c'est d'être sur le terrain. Puis moi, c'est ça que j'ai appris au cours des dernières années. Puis c'est ça que je vais continuer à faire avec l'équipe en place.
Je comprends parfaitement l'intention, la volonté d'aller voir comment ça se passe puis où ça se passe. Mais moi, je reviens à la première vague. Puis j'écoutais Mme McCann à 13h au point de presse. Puis ce qu'elle disait, là, puis je dis pas qu'elle mentait, je suis pas certain que l'information se rendait. On nous parlait, par exemple, dans des établissements qu'on cherchait de l'équipement, des masques, que des chirurgies, les cas de cancer étaient tous opérés. C'était pas nécessairement le cas dans bien des endroits. Ce que je veux te dire, en ce qu'on vous dit puis ce qui se passe, des fois, je pense qu'il y a des décalages.
Bien, c'est pour ça que je vous dis qu'il faut aller sur le terrain. C'est exactement ce que je vous dis. En allant sur le terrain, pour quelqu'un comme moi, pour des gens de mon équipe, j'ai depuis quelques semaines, je donne un exemple, Dr. O'Patterney, qui s'occupe de tout le volet clinique, là, qui est une de nos sous-ministres les plus seniors au ministère avec Mme Savoie, est allée à Saint-Jérôme, est allé rencontrer les gens pour savoir ce qui se passait à Saint-Eustache. Alors là, c'est pas juste d'envoyer une directive, mais c'est d'aller voir comment cette directive-là peut être applicable pour qu'on puisse faire les vraies choses. Alors, pour moi, c'est une approche de bonne gestion, mais aussi d'être sur le terrain.
Écoutez, on peut juste vous faire confiance, puis ça fait juste quelques semaines que vous êtes là, mais le mammouth est absolument incroyable. J'ai pas le temps ce matin de vous donner... Non, mais attendez, j'ai pas le temps ce matin de vous donner toute la liste. Mais t'as l'impression que fond-fond et haut fond-fond, parfois, c'est comme une mission qui se donne. Le ministre veut ça ou le cabinet demande ça, puis là, ils prennent ça, ils décortiquent ça, puis là, ça n'arrive pas. C'est dans des délais de 6 semaines. Est-ce que c'est ton dossier? Non, c'est pas le mien. Mais rappelle-moi jeudi prochain. Tu sais, c'est comme... Je dis pas qu'ils font exprès, là, mais c'est des machines.
Moi, je vous demanderais, M. Arcand, je vous dirais... Donnez-nous la chance là, de mettre ça en pratique. Là. Je pense que je comprends qu'on a eu plusieurs déceptions au cours des 15 dernières années, puis vous l'avez entendu, puis etc. Je suis tout d'accord avec ça. Mais là, on a une chance parce que savez-vous quoi? La crise, la pandémie, elle a fait mal au système. On a vu, puis là, il n'y a pas personne qui veut revivre la crise comme on l'a connue. Il n'y a pas personne dans le système de santé qui veut revivre ce calvaire-là, si vous me permettez l'expression.
Mais ça, alors, je suis d'accord avec vous, mais je vais vous dire une chose. Puis ça, vous le savez, là, vous venez du secteur privé, puis vous savez ce que c'est, la culture d'entreprise. Moi, je vous dis que je pense qu'au ministère de la Santé et des Services sociaux, il y a une culture où il n'y a pas une obligation de résultat, où on oublie malheureusement trop souvent que ce sont des humains sur des listes d'attente, ou quand on prend des décisions, et que la machine se passe la rondelle, ce qui fait que les délais sont interminables et que personne n'est responsable. C'est pas dans ma cour, c'est dans la cour de l'autre. C'est pas juste circonstanciel, c'est une culture.
Si vous me donnez une minute, M. Arcand, rapidement. Moi, j'ai rencontré là, des PDG, j'ai rencontré des gestionnaires de réseau qui veulent réussir. Ils n'ont pas aimé ce qui est arrivé dans les derniers mois. Et j'ai demandé à ceux qui sont... je dirais nos meilleurs ou ceux qui ont les meilleures pratiques, de nous dire comment eux ont réussi dans leur CIS ou dans leur CIUS. Et ça, cette culture-là de ce que j'appelle de compétition, là, c'est des gens qui disent « Moi, j'ai bien réussi puis je serais prêt à partager mes bonnes pratiques. » Ça se fait aussi dans le privé, vous le savez. C'est comme ça qu'on améliore des organisations. Alors, c'est pour ça, moi, que je vais sur le terrain pour confronter les bonnes puis les moins bonnes pratiques puis de voir comment on peut rapidement améliorer. Mais je vous le dis, il y a du très bon monde dans le réseau. Il s'agit de leur donner la chance. Alors, quand on parle d'imputabilité, c'est aussi d'être imputable pour ses bons coups. Puis là, en ce moment, on a plusieurs gestionnaires qui nous appellent puis qui nous disent « Bien, viens donc voir ce que moi je fais parce que je pense que j'ai réussi dans tel secteur ou en termes de prévention ou en termes de gestion de main-d'œuvre. Mes horaires, je les faisais comme ça. » Alors moi, c'est pour ça que je vous dis, donnez-nous une chance. On est en train de mettre de l'avant un plan qui semble avoir, l'appui de bien des gens. Je vous le dis, là, que l'AFIC hier est sorti positivement comme ça. Pour moi, je trouve ça encourageant. Vous savez qu'on est en négociation. On peut profiter des négociations pour amener d'autres éléments de meilleure gestion. Moi, je pense qu'on peut faire un changement. Mais la crise nous permet d'aller plus rapidement et de changer cette culture-là dont vous parlez.
Que j'ai envie de vous dire pour conclure, vous avez parrainé le fameux projet de loi 61 en disant il faut enlever des obstacles pour justement intervenir plus vite puis agir plus rapidement pour avoir des résultats. C'est que pour faire ça, vous êtes conscient que quelque part dans les machines, avec les lois puis les règlements, la bureaucratie apparaît malheureusement. Puis je dis pas que c'est pas du bon monde, là. Je suis pas en train de les juger personnellement, mais par sa nature même, la bureaucratie devient un objet de ralentissement ou un obstacle tout court. C'est pas pour rien que vous vouliez peser sur le gaz avec une loi.
Oui, mais écoutez, c'est ça la gestion du changement. Faut pas arrêter la première fois qu'on se fait dire non. Là. Moi, j'ai fait ça pendant 30 ans de la gestion de changement dans les grandes organisations. Puis il faut pas avoir peur de se faire écorcher un orteil ou un petit doigt, puis il faut recommencer. Alors, moi, je pense que du côté de 61, Mme Lebel va faire un très bon travail parce que elle a, elle aussi, la chance de repasser une deuxième fois avec un meilleur projet de loi. C'est comme ça qu'on fait le changement. Il ne faut pas lâcher.
Parfait. Merci, M. Dubé. Bonne journée.
Bonne journée.
Au revoir. Christian Dubé, ministre de la Santé et des Services sociaux. Juste pour conclure, là, moi, je ne vous dis pas que ce n'est pas du bon monde. Je ne suis pas en train de juger chacun des fonds-fonds et des hauts fonds-fonds. Mais j'ai tellement... Et pas juste en santé, mais là, on parle de santé. cette espèce de réflexe. Puis l'exemple que je donne, je pense qu'il est bon. Je suis le ministre, puis je vous promets un job à temps plein, puis je vous promets 26$ de l'heure, puis je fais une série d'engagements puis de promesses. Ça n'arrive pas. Ou le message est flou, c'est confus. Puis là, le syndicat prétend ça. Puis là, tu dis, ouais, mais moi, c'est ça qu'on m'a dit. J'ai écouté le ministre dire ça. Il y a plein d'exemples. C'est pas de ma faute. Je suis pas responsable. C'est pas dans ma cour. Rappelez-moi donc jeudi prochain. Oui, mais c'est parce qu'on ne peut pas régler ça. Moi, je ne m'occupe pas de ça. C'est un tel, mais un tel est en congé. Il revient dans 3 jours. Tu sais, ça se perd. C'est ça, la machine. Alors, souhaitons que le changement culturel, comme disait Mao, s'opère et que ça se fasse pour que ça marche pour vrai, pour que les gens de bonnes intentions fassent que ça marche, qu'il n'y ait pas toujours des délais et des délais.